When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Ça, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, on tripe, me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram.
Quand elle est tombée enceinte, Margot pensait vivre une grossesse fabuleuse, épanouie, mais elle fut moins idéale que prévu car elle a été alitée quasi 6 mois. Dépassement du terme, 3 jours pour accoucher, une péridurale paralysante pendant 4 jours... Bref, c'était bien loin de ce qu'elle s'était imaginé. La suite des galères continue avec un allaitement chaotique dû à une allergie à son propre lait. Pendant 1 an, elle doit trouver des solutions pour apaiser les douleurs des mastites et tirer son lait, ce qui va l'épuiser. Et comme cela ne suffisait pas, quelque temps plus tard, Margot fait un AVC qui va mettre entre parenthèses sa maternité. Pendant de longs mois, elle va devoir réapprendre les gestes simples, ce qui va créer une relation spéciale avec son petit garçon, qui apprend lui aussi les mêmes choses en même temps qu'elle. Manger, marcher, parler. Et ce qui va pousser Margot à se dépasser, c'est l'envie de retrouver une vie la plus normale possible pour son fils. Elle se met également à illustrer ses aventures pour laisser une trace sur son histoire. Dans cet épisode, Margot nous raconte son parcours sinueux dans la maternité, le jour où elle a fait son AVC, ses longs mois de rééducation, et ce qu'elle a appris de cette épreuve que la vie a mise sur son chemin. Bonne écoute! Bonjour Margot.
Bonjour Shane.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Alors tu es la maman d'un petit garçon qui a 3 ans ?
Oui, 3 ans.
Donc on va revenir un petit peu au tout début de ta maternité. Comment ça s'est passé toi ? Est-ce que tu avais toujours eu dans l'idée de devenir maman ?
Alors moi je voulais être maman, et ça c'était sûr. Une fois que j'ai eu trouvé le papa très vite, on était sûrs tous les deux qu'on voulait un enfant. Bon, on a vécu séparés pendant 4 ans, je crois. Moi en région parisienne et lui à Bordeaux. Et quand j'ai eu ma mutation et que j'ai pu rentrer enfin à Bordeaux, ça faisait 4 mois que j'étais revenue et je suis tombée enceinte, donc c'est allé très très vite et voilà, et du coup j'ai fait ma grossesse. Alors ça a été une grossesse un peu compliquée parce que j'ai eu un décollement du placenta, le truc un peu standard quoi, et j'ai été alitée pendant 1 mois et on m'avait dit quand ça sera bien remis tu pourras reprendre ton activité professionnelle, et j'ai jamais repris. Donc de février jusqu'à la naissance de mon fils, j'étais en arrêt. Donc c'était ouais. Dans le premier trimestre, et moi tous les mois quand j'allais chez le gynéco, je lui disais non mais c'est bon hein, je peux aller travailler. Il me disait non, vous restez à la maison, vous faites pas d'efforts. Et ça a été comme ça jusqu'à l'accouchement. Donc j'étais un peu désespérée parce qu'en fait je pensais vivre une grossesse normale, mais je suis restée cloîtrée chez moi. En fait, j'étais déjà confinée et du coup voilà, j'ai passé toute ma grossesse à la maison. Il y a que les 2 derniers mois où j'ai commencé un peu à sortir parce que il se passait rien. Donc voilà, on m'avait dit mais t'as le droit de faire des efforts physiques, t'as le droit de prendre la voiture parce que c'était interdit. Et voilà, et du coup, il y a que le dernier mois où j'ai pu un peu reprendre une vie normale, sortir, aller nager, mais voilà, j'ai vécu une grossesse en arrêt alors que moi je m'attendais à bosser jusqu'au bout et c'est pas du tout été le cas.
Tu faisais quoi comme travail?
Alors, j'étais professeure d'art plastique. Alors, ce qui gênait mon gynécologue, c'est que, un, je suis debout toute la journée. Deux, c'est que il y a une heure de voiture pour aller à mon établissement et sur des petites routes de campagne sinueuses et un peu chaotiques. Donc ça, c'était pas bon pour le bébé, toutes ces vibrations. Et la troisième chose, c'est que, quand t'es prof, t'es un poil stressé, c'est un peu notre cliché, mais c'est quand même vrai. Et donc moi, j'étais très stressée, et alors stressée par le travail, et puis par la grossesse. Et du coup, bon ben voilà, j'étais en arrêt toute ma grossesse, et ça a été un peu dur à encaisser parce que moi, je m'imaginais vivre une maternité fabuleuse, être magnifique, pouvoir vivre ma vie, être la femme enceinte épanouie. Et résultat, j'ai passé 6 mois sur mon canapé à mater des documentaires sur Arte, donc c'était moins glamour que ce que j'imaginais.
T'arrivais à t'occuper un petit peu quand même?
Oui, je faisais mes cours parce que j'étais toujours persuadée que j'allais bosser, donc je préparais tous mes cours et je bossais avec ma remplaçante qui venait à la maison bosser pour avancer sur ma progression. Alors j'ai eu du pot parce qu'en fait la fille qui me remplaçait, c'était une amie de mon frère. Et du coup, j'ai appris à la connaître par le biais de mon frère et on a sympathisé. Donc, c'était bien plus facile que si c'était une totale inconnue qui est rentrée dans ma vie. Donc, je continue à préparer mes cours, à bosser et à préparer du coup les cours pour Marion pour l'aider. Et après, sur mon temps libre, je faisais des activités manuelles, de la couture, je préparais la chambre de mon bébé. Voilà, je m'occupais. Franchement, je me suis pas du tout ennuyée, mais j'étais pas j'ai pas pu faire ma femme active enceinte.
Et alors la rencontre avec ton bébé, comment ça s'est passé? L'accouchement. Alors,
évidemment, comme moi, je suis quelqu'un de compliqué, j'ai eu un accouchement apocalyptique parce qu'en fait, j'ai mis 3 jours à accoucher. J'ai fait un dépassement de terme. Donc la politique au CHU de Bordeaux, c'est si la veille du terme l'enfant n'est pas arrivé, il faut téléphoner et prendre rendez-vous pour le lendemain. Donc ce fameux jour, j'appelle et j'explique que mon bébé n'est pas né, que le terme est le lendemain, qu'il me faut un rendez-vous. Donc ils me disent de venir le lendemain. Et puis il faisait hyper chaud. Il est né au mois d'août, fin août. Il faisait, c'était abominable la chaleur qu'il faisait, et du coup j'étais contrariée de me dire ah mais il est toujours pas là, et donc j'étais sur mon canapé et évidemment je regardais un replay d'un documentaire. Et puis à un moment donné je me lève et je dis à mon copain, putain, j'ai hyper chaud et je suis humide, et là je mets pause sur mon documentaire pour aller aux toilettes. Et alors c'est marrant parce que c'était sur la vague de Tiopo, et en fait mon copain me dit t'es au-delà de humide, t'es trempé, on dirait que tu t'es pris un seau d'eau dessus. Et donc je dis ouais, c'est bizarre, je comprends pas, j'ai chaud mais pas de là à transpirer comme ça, quoi. Et donc je vais aux toilettes et puis je lui dis ah ouais, il y a un truc bizarre là, ça coule. Et donc je dis bon bah attends, je vais me doucher parce que je vais voir dans la douche si ça continue de couler. Ça coulait, il y a des petites gouttes. Et donc j'appelle la maternité et ils me disent bon bah visiblement vous avez fissuré la poche des os. Ah bon, bah d'accord. Et ils disent bon, vous avez mangé? Non. Ben vous venez à 14h et vous mangez et vous préparez. Donc on déjeune. Elle nous avait dit ne vous pressez pas, vous avez le temps, pas de soucis. Donc on arrive à la maternité, on était attendus. Moi j'étais persuadée qu'on ferait un aller-retour pour rien, donc j'avais dit à mon copain bon on prend la valise, mais franchement t'amuses pas à la sortir maintenant de la voiture parce que je te jure que ce soir on est rentré à la maison. Et ils m'ont demandé de faire pipi dans un petit pot et moi j'avais pas du tout envie de faire pipi. Mais on reviendra quand vous aurez fait pipi. Et au bout de 3 quarts d'heure, j'y arrivais pas, donc je suis partie m'acheter 1 litre d'eau. Et donc je fais pipi dans le petit pot. Et je leur dis bon, mais c'est bon, j'ai mis le flacon comme vous m'avez dit. Ok, ben on vient vous chercher quand on a fait l'analyse. Et puis au bout d'une heure et demie, ils reviennent et je leur dis mais vous avez pas fait l'analyse? Ben non, on a perdu votre peau. Ah, je dis non, c'est pas vrai. J'ai galéré à faire pipi, ne me redemandez pas de boire un litre trop d'eau. Non, vous demandera pas ça, on va vous ausculter. Puis à peine là, ils me mettent le spéculum, c'était parti, j'avais vraiment bien fissuré. Donc ils m'ont admise en observation et j'ai coulé comme ça pendant 2 jours. Moi, je pensais qu'au bout d'un moment, ça se vidait et que c'était bon, quoi. Ah mais non, ça se régénère. Donc ça coule tout le temps. Et en fait, j'ai coulé comme ça en continu pendant 2 jours. Donc, il fallait me changer les draps toutes les heures et demie parce que les protections supportaient pas. Et moi, j'avais trop honte d'appeler les aides-soignantes. Donc, j'enlevais les draps, je les pliais dans un coin. Et elle me disait, faut arrêter de faire ça, madame. Hein, on est là pour ça. Et voilà. Et donc, au bout du deuxième jour, ils ont dit, bon, ben, on va vous déclencher. Et donc ils ont posé le petit tampon avec l'hormone, je sais plus le nom. Et l'infirmière me dit bon, mais normalement dans 1h30 on vous garde sous observation, voilà, ça devrait le faire. Bah ça a rien fait du tout. Et puis elle me dit bon, j'y crois pas trop avec vous, hein. Franchement, je crois qu'on recommence demain matin. Je dis, ah, quand même, ça fait mal, j'ai pas trop envie, quoi. Et plus tard dans l'après-midi, donc ils m'ont posé le tampon, je me rappelle, à 6h30 du matin. Et en fait, il a commencé à s'activer vers 15h. Et là, tu passes d'un seuil où tu as zéro douleur. Enfin, tu sens que tu as des contractions, mais ça va, c'est hyper tolérable. Et tu passes immédiatement à un truc énorme où tu peux plus te contenir, quoi. Mon copain était aux toilettes. Il a même pas eu le temps de se laver les mains que j'avais déjà parti tellement j'avais mal, quoi. Et donc, ils m'ont amené en salle d'accouchement. Et ils m'ont posé la péridurale. Et au moment où on m'a posé la péridurale, l'anesthésiste m'a dit, vous allez voir, c'est possible que vous sentiez que ça passe un peu plus à un côté, sur un côté. Et il n'avait pas fini de me dire ça, que je me dis, ouais, c'est vrai, j'ai l'impression que c'est plus chaud à droite. Et je me suis dit, bon, tu psychotes, il te l'a dit, donc maintenant tu t'imagines que c'est passé plus à droite. Ah ben non, c'était pas du tout une vue de mon esprit, parce qu'en fait, j'ai été paralysée 4 jours à cause de cette péri. Elle était trop dosée. Et en fait, dans l'accouchement, j'ai mis 18 heures à coucher. Et je crois que j'ai fait 2 gardes d'infirmières et de sages-femmes. Et en fait, ils ne pouvaient pas me bouger, donc ils me bougeaient comme des sacs à patates. Et c'était, j'avais trop honte. Je pouvais juste bouger les bras pour dire oui, c'est bon. oui, vous pouvez me tenir la main. Et non, mais en fait, c'était horrible. À partir du buste, je sentais rien. Donc, j'ai même pas senti mon fils naître parce que j'avais une paralysie à partir du nombril, quoi. Et ça a mis 4 jours à s'évacuer, donc c'était bien bien compliqué. Et une fois que mon bébé est né, donc tout s'est bien passé, j'ai quand même fait un malaise hyper hyper fort quand ils ont voulu me mettre sur la chaise roulante pour me faire remonter en chambre. Je tenais mon bébé contre moi et puis là j'ai juste eu le temps de dire à son père, prends le bébé. Et là, je suis tombée par terre et il a juste le temps de me le prendre des bras et je suis tombée par terre. J'ai fait un malaise terrible parce qu'en fait, ça faisait 3 jours que j'étais en travail et que je souffrais l'air de rien. J'avais pas dormi. Puis pour l'accouchement, t'as rien le droit de boire, t'as rien le droit de manger. Elles avaient tellement pitié de moi, les infirmières, qu'elles m'ont offert le jus d'orange de leur salle de repos parce qu'il faisait ultra chaud. Et après, quand je suis remontée en chambre avec mon bébé, il y a quand même eu un suivi super au CHU de Bordeaux. Ça, je dois dire que je suis assez admirative de leur travail. Et d'ailleurs, moi, j'ai même eu un truc particulier, c'est que avant de tomber enceinte, j'avais fait une dépression et j'étais sous médicaments et j'étais sevrée de mes médicaments et du coup il m'avait fait venir une psychologue pour la dépression postpartum et un suivi et j'avais trouvé ça vraiment génial parce que je me suis dit ils abandonnent pas les gens dans la nature. Donc elle m'avait posé le questionnement pour voir si je pouvais potentiellement le questionnaire pour voir si je pouvais faire potentiellement une dépression postpartum et tout. Puis on en avait beaucoup discuté puis au final elle m'avait dit bon ben en fait vous n'êtes pas du tout dans le cas clinique de faire une dépression postpartum. Et en fait, j'avais été vraiment contente de voir ce suivi et qu'il prenait bien soin des patientes et aussi des familles parce que mon copain est resté avec moi tout le temps. Et j'ai trouvé ça vraiment vraiment formidable. Et même la première nuit, j'étais épuisée et ils m'ont pris mon bébé. Alors moi, j'étais, mais non, mais il a 15 heures, je veux pas me séparer de lui. Si, si, madame, c'est une nécessité. Vous n'avez pas dormi depuis 3 jours. On vous le garde, c'est pour vous. On vous le ramène à 6 heures du matin pour la tétée. Vous inquiétez pas. Et franchement, je me suis dit, mais ils sont incroyables. D'ailleurs, il y avait un homme, sage-femme, et il avait été vraiment extraordinaire lui aussi, hyper pro avec les bébés. Enfin, ils m'ont vraiment vraiment marqué. Et est venu l'allaitement qui a été le drame de ma première année de vie avec mon fils, parce que j'ai eu un allaitement chaotique, le truc horrible.
Ça a été compliqué dès le début à la maternité.
Dès le début, quand ils m'ont mis au sein après qu'ils soient nés, je me suis dit, mon Dieu, c'est horrible. Ah, c'est ça l'allaitement, d'accord. Bon, mais c'est horrible. Mais j'ai pris sur moi. Je me suis dit, et on dit toujours que les premières fois, les premières tétées, c'est pas facile, qu'il faut s'habituer. Mais en fait, ça me faisait atrocement mal. Et vraiment, je supportais pas. Et puis, quand la montée de lait est venue, alors là, ça a été horrible. Pour donner un ordre d'idée, à l'époque, je faisais un 90B, mais je le remplissais pas. Et là, mes seins, ils étaient gros comme ma tête, quoi. C'était horrible et ils étaient durs comme la pierre et violets. Donc, ils étaient ultra engorgés, et c'était abominable. Ça me faisait un mal terrible. On pouvait pas me toucher. Et même si t'étais, ça ne me vidait pas les seins. Donc, on a été obligé de me mettre au tirelet pour les vider. Et voilà. Et du coup, j'ai rencontré cet objet abominable. La première fois qu'on me l'a apporté, je me suis sentie humiliée parce qu'il y avait mon copain qui était dans la chambre et je lui ai demandé de sortir. Je voulais pas qu'il me voie faire ça. J'avais l'impression d'être une vache. Et en fait, je suis restée à l'hôpital 10 jours à cause de ça.
Ah oui.
Parce que ça me faisait trop mal et mes seins étaient tellement abîmés que quand je tirais mon lait, le lait il était souillé de sang parce que tout l'intérieur était abîmé. Donc c'était vraiment abominable. Donc je donnais le lait à mon bébé par le biberon, mais j'étais incapable de le mettre au sein. Et quand il est rentré à la maison, ben on est passé en allaitement mixte parce qu'en fait, il fallait que moi que je vide mes seins, sinon si le lait stagnait, je me faisais une allergie. Et au tout début, j'étais obligée de le faire toutes les 45 minutes, jour et nuit. Mmh. Et donc j'avais de quoi le nourrir, mais en fait, j'avais pas beaucoup de lait. Ça qui était bizarre, c'est que je pouvais tirer grand max un 2 ml de lait par jour, ce qui est pas énorme en soi. Mais par contre, il fallait que je le vide en continu. Dès que ça stagnait, hop, une infection. Et j'ai pas été éligible pour prendre le Parlodel, qui est le médicament qui coupe l'allaitement, parce que on le déconseille aux femmes qui ont eu un passé de dépressif, parce que ils ont eu des cas de suicide rapportés. Et donc voilà, donc j'ai vécu avec ce tire-lait pour essayer de me soulager. Et en fait, j'ai tout essayé. L'homéopathie, les tisanes, l'ostéopathie, enfin tout ce qui existe, les feuilles de chou, les ceci, les cela. J'ai tout testé. Rien n'avait jamais fonctionné. Même on disait il faut se bander la poitrine. Moi je portais des brassières super serrées. Enfin c'était l'horreur. En fait c'était tellement pénible que par exemple j'ai jamais pu mettre mon fils en écharpe parce que si on me touchait la poitrine, hop, ça coulait. Donc vous pouvez plus mettre de salopette. Je pouvais plus mettre de sac en bandoulière. Je pouvais la ceinture de sécurité. Je pouvais la tenir à la main parce que je pouvais pas la supporter sur mon buste. Et ça a duré 1 an. Donc j'ai été fini par être suivie après avoir épuisé tous les médecins et sages-femmes que je connaissais au CHU de Bordeaux par une médecin qui était spécialisée en allaitement qui m'a aidée mais en fait a rien pu faire concrètement pour moi et elle m'avait dit vous avez droit franchement vu comment ça se passe vous allez être arrêtée pendant 1 an. Ça faisait déjà quasiment 1 an que j'étais arrêtée. Et là, en fait, j'ai dit hors de question, quoi. Donc, je lui ai dit, écoutez, prescrivez-moi un tire-lait pour le travail, un petit tire-lait, et je vais reprendre le boulot. À ce moment-là, j'arrivais à tenir toutes les 4 heures. Donc il fallait que je tire mon lait. Donc, je m'étais forcée, juste avant de reprendre le boulot, à arriver à tenir 5 heures. 5 heures, mais la dernière heure en ayant bien bien mal, hein, parce que ça me faisait une sensation d'avoir le sein, c'était surtout le sein droit qui était tout le temps engorgé, d'avoir comme si on me transperçait par une flèche, mais en partant du dos jusqu'au sein. Donc j'avais mal comme ça en continu. Et donc j'ai repris le travail avec mon tire-lait. Donc j'ai tiré le lait juste avant de partir au collège, sachant que j'avais une heure de route, et je le tirais à midi dans ma salle de classe. Parce que j'ai pas mon chef n'a pas voulu que j'ai accès à l'infirmerie, donc le fait que je me batte avec le médecin du rectorat pour certains droits, parce qu'en fait c'était tellement compliqué que je devais être chez moi à 18h dernier cara pour pouvoir tirer mon lait dans des conditions de propreté acceptables. Donc je pouvais pas le tirer au collège s'il y avait des conseils de classe, s'il y avait des réunions de parents profs, et mon chef l'a refusé. Donc il a fallu que je me batte avec le médecin de prévention du rectorat pour avoir ce droit-là. Et en punition, comme j'avais pas je faisais pas les réunions, je crois qu'il m'a interdit d'avoir accès à l'infirmerie. En fait, j'ai pas bataillé. Donc je le faisais dans ma salle de classe, que alors j'ai désinfecté mon bureau avant de me poser avec des lingettes antibactériennes. Il n'y avait pas de rideau, enfin des rideaux tout petits qui tiennent pas, les portes ne fermaient pas à clé, et du coup j'ai fait ça de février jusqu'à juillet, tirer mon lait dans la salle de classe, le mettre dans le frigo du collège au milieu de la bouffe des autres, et voilà, et c'était n'importe quoi, et sachant qu'en plus je tirais des quantités ridicules, mais j'avais honte de le jeter. Parce que le lait maternel, c'est tellement précieux que je me disais, même si je fais un tout petit volume, je le garde pour mon fils, histoire qu'il boit un tout petit peu. Et voilà. Et du coup, ça a été hyper, hyper compliqué. Et ça m'a littéralement épuisé mon organisme. Parce que, en fait, j'ai perdu très, très vite mon poids pris pendant la grossesse. Je pense que j'ai pris aux alentours de 17 kilos. Et quand je suis revenue après mon accouchement, j'ai perdu l'équivalent de 7 ou 8 kilos de mon poids de forme. Donc, j'étais rachitique. Je faisais un 36-38 avant ma grossesse. Et là, je rentrais dans du 34. Et je m'en étais même pas rendu compte, quoi. Pour moi, c'était juste normal. C'était de la fatigue. Mais en fait, mon organisme était littéralement épuisé par l'allaitement. Et quasiment au 1 an de mon fils, je tirais presque plus, j'avais presque plus rien dans les seins, et en fait on devait partir en vacances et j'ai refusé de partir avec le tire-lait parce que ça me gonflait, j'en pouvais plus de vivre avec cet objet partout, et là j'ai arrêté, et en fait j'ai souffert pendant quelques jours, mais bien souffert, et je me suis dit tant pis, c'est pour la bonne cause, et j'ai fait ma dernière mastite à ce moment-là, et puis après j'ai arrêté.
Et t'as jamais voulu arrêter avant?
Je pouvais pas. Je pouvais pas. Il faut s'imaginer que si je le faisais pas, mes seins devenaient durs comme de la pierre et violacés. Mmh. Et en fait, si je disais bon c'est bon j'arrête et que je devais endurer la douleur, ben j'allais forcément dégénérer quoi. Donc j'aurais bien voulu. D'ailleurs tout le monde me disait t'as qu'à souffrir pendant quelques jours, tu verras. Mais non. Moi, j'ai pas envie de souffrir déjà que j'ai mal depuis des mois. J'ai pas envie maintenant de passer dans une phase de douleur encore plus importante. C'est pas une vie de vivre à tous les jours à se prendre son paracétamol parce que on crève de douleur. Donc, j'ai essayé que la nature fasse son travail, mais ça a été hyper compliqué et c'est quelque chose qui est assez méconnu, quoi. Je n'ai jamais entendu parler d'un cas similaire au mien où on fait comme des allergies à son propre lait qui peut pas stagner. Et d'ailleurs, c'était tellement compliqué que je ne l'ai jamais raconté à ma sœur jumelle. Parce que je refusais, à l'époque elle avait pas d'enfant, mais je me disais je veux surtout pas qu'elle sache tout ce que j'ai vécu, parce que je veux pas que elle, quand elle aura un bébé, elle s'imagine que c'est ça l'allaitement. Donc je lui ai jamais raconté ce que c'était, pour pas lui faire peur. Donc du coup, j'ai jamais partagé avec elle. On n'a jamais pu débriefer là-dessus. Elle a jamais pu être un soutien, mais c'était volontaire de ma part parce que je voulais la protéger de ça et qu'elle ait sa propre expérience de l'allaitement. Et du coup, quand son bébé est né, ben elle a vécu sa propre expérience qui est totalement différente de la mienne. Et franchement, je regrette pas de lui avoir caché parce que c'était quand même bien glauque.
Et les médecins te disaient quoi? Ils connaissaient ce genre de cas rarissime ou ils étaient un peu perdus?
Mais j'avais l'impression surtout qu'ils étaient perdus et j'avais l'impression aussi que leur solution c'était de passer par la douleur et c'était surtout des médecins hommes. Et ben, moi je leur disais, excusez-moi, mais pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si on vous transperçait les testicules. Donc je pense que si je vous donne cette image-là, c'est hauteur de la douleur que je ressens. Et je dis, je pense qu'on vous apprécierait pas qu'on vous disait, tu souffres comme ça pendant des jours. À partir de cette zone-là, donc ils étaient assez désemparés. Et la médecin que j'ai vue au CHU a été très bien, mais elle avait un côté un peu new age. Je pose mes mains sur toi et je vais te donner des énergies. Et moi, je suis assez cartésienne et ça me bloque un peu ce genre de truc. Donc je l'ai écoutée, je me suis entièrement remise à elle, mais voilà, j'avais entièrement confiance en elle, hein, de ceci dit, parce que elle avait vraiment une connaissance de ce que c'était la lactation et tout. On a bien parlé, mais voilà, concrètement en termes d'apport médical, j'ai pas eu vraiment de solution à part la nature fera son œuvre. Donc bon, j'ai vécu comme ça.
Et alors la relation avec ton fils, est-ce que tu as réussi quand même à créer du lien malgré toute la douleur
Alors mon fils, c'est ma merveille, c'est la 8e merveille du monde. Oui, je suis très très proche de mon fils. C'est d'ailleurs quand à l'époque j'ai repris le travail, j'avais un jour de libre, c'était le jeudi. Et je lui disais toujours, je le garde, il n'était pas chez Nounou le jeudi exprès, parce que c'était notre jour à nous deux. Voilà. Et donc, oui, avec mon fils, on a une super relation. On fait plein de choses ensemble. Et même quand il était bébé, je le traînais partout. On faisait plein de trucs. Il est allé dans son premier musée. Je crois qu'il avait 3 mois. Enfin, voilà, on l'a traîné partout. C'était hyper important pour moi qu'on fasse plein de trucs ensemble. Et ça continue aujourd'hui, quoi. Non, l'allaitement, ça m'a pas du tout gêné pour notre relation à nous deux. En plus, c'est un bébé fantastique parce qu'il a dû sentir qu'il y avait un problème et il a fait ses nuits à 3 semaines. Donc il faisait du 22h 6h à 3 semaines de vie. Donc c'était formidable de ce côté-là. Je pouvais dormir. Alors moi je dormais pas puisque je me levais toutes les 3/4 d'heure pour tirer mon lait, mais de savoir que j'avais pas à gérer en plus de devoir le changer, me lever et tout, c'était incroyable et je mesure ma chance et je me dis moi, je sais pas si j'aurais pu endurer ça, quoi.
Et alors, donc du coup, t'as repris un rythme normal après cet allaitement compliqué?
Alors après, j'avais repris le travail et l'allaitement s'est arrêté en août. J'ai repris le travail en septembre. J'étais très très fatiguée quand même parce que l'air de rien, c'était très épuisant pour mon corps. Et puis en plus, ma nounou a eu un problème et du coup, elle devait me garder mon fils pendant les vacances d'été. Résultat, c'est moi qui ai gardé les 2 mois. Donc, j'ai pas pu me reposer du tout. J'ai eu un seul jour de libre pendant les vacances d'été. Et après, tout le temps, il était tout le temps avec moi. Et mon copain travaillait, donc j'étais H24 avec lui. Et donc j'ai été vraiment, vraiment, vraiment très, très fatiguée. Et donc j'ai repris le travail en septembre. Et puis comme ma vie manquait cruellement de piment, j'ai décidé qu'en novembre, je ferais un AVC.
Alors comment ça s'est passé? Raconte-nous cette journée où tu as fait un AVC.
Alors déjà, je vais raconter la journée d'avant.
Okay.
Parce que c'est un peu typique de ma vie à cette époque-là. Donc moi, j'étais affectée dans un collège de campagne et je n'ai pas le permis parce que j'y arrive pas et que voilà et que j'ai peur de conduire. Je suis inscrite à auto-école. J'aurais pu m'acheter 5 sacs Chanel avec tout ce que j'aurais laissé. Et du coup, pour aller au collège, ben j'étais tributaire de mes collègues et du coup ce matin-là, je pouvais pas aller avec ma collègue habituelle qui habite au bout de ma rue et je devais traverser tout Bordeaux pour aller chez un collègue qui devait me réceptionner devant chez lui à 7h. Et voilà, donc en gros, je partais de chez moi à 6h du matin. Je prenais le tram, si tram il y avait. J'étais toujours obligée d'anticiper pour voir. C'était un matin où il pleuvait, donc j'avais pas pris mon vélo parce que je voulais pas arriver trempée chez mon collègue. Donc je me rappelle que déjà j'étais partie hyper tôt de chez moi, genre à 6h du matin. Et la veille, en plus, on avait eu des réunions parents-prof, donc j'étais rentrée à 22h, donc j'étais fatiguée. Et donc, ce jour-là, donc j'arrive au collège, déjà j'étais fatiguée, et je fais cours, et là, je me suis énervée, mais comme jamais, contre trois élèves qui ont fait une remarque homophobe dans mon cours, et ça m'a fait péter un câble. Et je me mets très rarement en colère. Je fais partie des gens avec les enfants qui ont des colères froides. Je ne hausse jamais la voix. Et là, j'ai pas pu m'en empêcher. Et j'ai hurlé, apparemment, on m'a entendu dans tout le collège.
Et ah oui.
Voilà, j'ai pas pu supporter leur réflexion parce que à l'époque on était en 2018 et je leur ai dit c'est pas possible qu'en 2018 des enfants de 13 ans puissent avoir des réflexions aussi idiotes à propos de l'homosexualité et voilà et du coup ça je le garde en souvenir parce que voilà, j'ai été vachement meurtrie d'entendre des trucs aussi idiots et le fait que j'ai dépassé ma ligne de conduite, c'est-à-dire ne jamais hurler. Et donc ce jour-là, j'étais épuisée, je vais me coucher tôt en rentrant tellement j'étais fatiguée. Et le lendemain matin, donc c'était un samedi matin, c'était le 17 novembre, c'était le premier jour des Gilets jaunes. Je pourrais pas l'oublier. Et du coup, quand je me suis réveillée, j'étais pas bien du tout. J'avais l'impression de faire un malaise un peu type hypoglycémie. Je me sentais avec des vertiges, je me sentais faible. Donc, je me suis levée malgré tout. J'ai pris le petit déjeuner avec mon copain et mon fils. Et puis, au bout d'une demi-heure, je leur ai dit, je me sens pas bien. J'allais me recoucher, me reposer, puis ça va passer. Et donc, je suis remontée dans ma chambre. Je me suis allongée. Puis, je sais pas, au bout de 20, 25 minutes, une demi-heure, je suis redescendue parce qu'il se passait rien. Et donc, mon copain était en train de se préparer pour travailler parce qu'il travaille les samedis. Et je suis rentrée dans la salle de bain. Il était en train de se doucher. Il y avait mon fils qui apprenait à se mettre debout à l'époque et qui était sur le bord de la baignoire en train de lui jeter dessus des jouets en plastique. Et, je me suis assise à côté de mon fils par terre et mon copain me dit ça va et je lui dis ça va moyen, je sens pas très bien et j'avais du mal à parler, je sentais qu'il y avait un truc qui bloquait. Mais comme je voulais pas l'inquiéter, finalement j'ai opté pour des phrases très courtes, limite de l'onomatopée. Oui, non et donc il est parti travailler. Et je suis restée avec mon fils. Et à l'époque, il avait 14 mois, donc il faisait encore la sieste le matin. Donc je suis allée le recoucher. Et alors, ma maison est sur trois niveaux. Et donc je suis descendue pour aller après l'avoir couché de la sieste. Et je me suis dit bon, j'ai envie de fumer une cigarette. Je fumais un petit peu de temps en temps. Et du coup, je descends sur mon perron dans la rue et je fume une cigarette. J'étais en pyjama. Je n'ai aucune honte si je dois fumer une cigarette. Donc j'avais mon pyjama, un pyjama avec des cœurs, et je croise mon voisin qui me dit oh là là Margot, t'as une mine épouvantable. Et j'ai juste pu lui dire je suis fatiguée. Il me dit si ça va pas, tu sonnes. Donc je finis ma cigarette, je la jette à la poubelle et je ferme la porte. Et là je me dis non mais quand même il y a un truc qui cloche quoi. Ça va pas, c'est vraiment bizarre. Donc je remonte vers le salon et là je me dis il va peut-être falloir que tu appelles les secours. Donc si tu dois appeler les secours, il faut que tu te laves parce que j'étais déjà incohérente, enfin j'avais une liste de priorités dans ma tête qui était pas logique. Donc je me suis lavée, je me suis lavé les cheveux, je me suis rasé les jambes parce que je me suis dit si tu y vas et que ça reste un moment et que t'es hospitalisée, je voulais pas être crade quoi. Donc je me suis préparée. Pareil. Bon, je me suis pas maquillée, hein. J'ai pas perdu de temps quand même. Et après être sortie de la douche, là, je me suis dit bon, maintenant, il faut agir. Donc, j'ai appelé le travail de mon copain et je savais plus où il habite, où il travaillait. Je savais globalement où il travaillait, mais je savais plus dans quel secteur. Donc, j'ai appelé le numéro principal et je suis tombée sur le standard. Et là, je m'étais dit, c'est bon, le standard, ça va me remettre quelque chose en tête. Manque de peau, le standard était en panne. Donc là, perdu complètement parce qu'il n'a pas son portable sur lui au travail, c'est interdit. Donc obligé de chercher dans mon téléphone où il pouvait travailler, et dans mon répertoire, il y avait un truc qui évoquait vaguement quelque chose. Donc j'ai appelé le numéro et je suis tombée sur un de ses collègues et j'ai reconnu sa voix. Et j'ai juste eu le temps de lui dire « Lucas, c'est Margot, passe-moi ». Donc, il m'a immédiatement transféré. Et j'ai juste pu dire à mon copain « Il faut que tu rentres, il y a un pépin ». Et j'ai raccroché. Après, j'ai appelé ma mère et elle n'a pas décroché. C'est mon frère qui a répondu parce que ma mère est occupée. Et puis, il lui a dit « Il y a Margot au téléphone et elle dit n'importe quoi ». Je le savais que je faisais un AVC.
Ah, et tu savais que là, tu étais en train de faire un AVC sur le moment.
Je le savais. Et du coup, mon père lui a arraché le téléphone des mains, il m'a parlé et il m'a dit « Tu bouges pas, j'arrive », et a raccroché. Et parce qu'en fait, mes parents sont pharmaciens et il était de garde et il venait juste de rentrer à la maison parce qu'il n'est pas censé être là un samedi à la maison. Et il venait juste de rentrer de garde et du coup... à ma voix, il a compris aussi, lui aussi, que je faisais un AVC. Et entre temps, le SAMU m'a appelé et ils m'ont posé des questions et voilà. Et puis du coup, ça s'est mis en place et j'ai été évacuée par une ambulance et je suis rentrée à l'UNV, donc l'unité neurovasculaire de Bordeaux, où j'ai été prise en charge en soins intensifs. Et alors moi, j'ai toujours été lucide sur le fait que je faisais un AVC, parce qu'en fait, je connaissais tous les symptômes. Donc, j'avais le vertige, j'avais le mal de tête, je sentais que je commençais à faiblir d'un côté de mon corps, je voyais que j'avais des troubles de l'élocution et que j'étais incohérente. Et voilà, il y a plein de détails qui m'ont mis la puce à l'oreille, donc j'ai jamais été surprise en fait de ce qui se passait parce que je savais ce que j'avais. Et quand du coup on m'a annoncé vous avez fait un infarctus cérébral, c'est ce qu'on appelle un AVC ischémique. Mais en fait, j'ai une phrase hyper bizarre pour le neurologue qui était là, c'est que je lui dis "Ah bon, c'est que ça ?" Et il m'a dit "Vous avez pas compris." Si, j'ai compris, j'ai fait un AVC, je suis pas morte, c'est cool. Et ça l'a complètement désarçonné, quoi, que j'ai dit ça. Mais en fait, franchement, j'étais hyper contente de pas être morte avec un AVC, quoi. Et donc, je suis restée en soins intensifs plusieurs jours. Puis après, j'ai été admise en neuromusculaire parce qu'en fait, il y avait plus de place en neurologie. Donc, ils m'ont mis dans un endroit où il y avait un lit. Et du coup, c'était la neuromusculaire. Et je suis restée 12 jours à l'hôpital, ce qui est pas beaucoup en fait. Et après, je suis partie en centre de rééducation où je suis restée 5 mois en hospitalisation complète et 6 mois en hospitalisation de jour. Donc j'ai vécu 11 mois en tout dans cet établissement.
Il était situé où cet endroit?
Il était pas très loin de chez moi. Donc j'ai eu de la chance sur ce coup-là et j'y suis restée 11 mois en tout. Donc 5 mois en hospitalisation complète, donc j'avais le droit de sortir que les week-ends. Du samedi 11h jusqu'au dimanche 19h.
Et pendant 5 mois, t'as vu ton petit garçon que les week-ends?
Voilà, je l'ai pas vu pendant tout le temps où j'étais au CHU, pour la simple et bonne raison qu'en soins intensifs, je crois qu'il avait pas le droit de venir. Et ensuite, quand j'étais en neurologie, enfin neuromusculaire, je refusais de le voir parce qu'en fait, je voulais pas qu'il vienne, que je passe un moment avec lui, puis qu'après il reparte et qu'il comprenne pas. Alors, je préférais l'avoir en visio et qu'il voit le décor où j'étais, qu'il voit, hein, mais pas le voir et qu'on me l'enlève. Voilà, je trouvais que c'était trop dur l'un pour l'autre. Donc après, pendant les week-ends, quand je rentrais, il était petit, mais on lui a toujours tout expliqué. Voilà, donc maman est à l'hôpital la semaine, elle est là les week-ends. Voilà, donc les week-ends, j'étais avec lui, je m'occupais de lui, et moi, mon seul objectif, c'était retrouver une vie quotidienne pour mon fils. Parce que, en fait, au tout début, j'étais en fauteuil roulant, je ne marchais plus, et je pouvais rien porter, mais mon bras droit était très très faible. Donc, mon objectif, moi, c'était, je veux marcher, et je veux pouvoir porter des trucs. Alors, la marche, je savais que j'y arriverais, parce que En fait, moi, c'était pas une hémiplégie. Moi, c'était une hémiparésie. C'est-à-dire que j'avais une faiblesse musculaire et mon corps ne me portait plus à droite. Donc ça, je pouvais le à force de bosser, je pouvais le récupérer. Donc ça, il était hors de question que je reste en fauteuil. Il y a des hémiparésies qui restent toute leur vie en fauteuil. Mais moi, j'avais l'impression que c'était moins grave qu'eux. Donc, je me suis défoncée pour remarcher. Et après, j'avais l'objectif de pouvoir porter 15 kilos. Donc, on me mettait dans des gros sacs à linge sales d'hôpitaux. On me mettait des grosses médecine balls. Et je me baladais comme ça dans les couloirs avec le gros sac pour que je sois capable de le porter. Donc on me faisait monter et descendre des escaliers en colimaçon aussi. Ça c'était un méga challenge. Et voilà, et du coup on me faisait un peu marcher, courir, voilà, pour que je retrouve, et tout était focalisé sur lui. C'est-à-dire que tu le fais, c'est pas pour toi Margot, c'est pour lui. Toute ma rééducation était axée sur comment je vais trouver une vie quotidienne avec mon fils. Alors, les premiers temps, quand je rentrais à la maison, j'étais en fauteuil roulant. Donc, quand je sortais un petit peu le samedi après-midi avec mon fils, c'était un peu grotesque parce que ma mère poussait mon fils dans sa poussette et mon père me poussait à côté. Donc, ça devait lui faire bizarre de voir sa mère dans une poussette, mais voilà, c'était, moi je trouvais ça un peu drôle, je lui faisais coucou, il me regardait, il faisait coucou. Et puis après, je dirais après à marcher, et donc avec un déambulateur, puis deux cannes, puis une canne, enfin deux béquilles, puis une canne, et voilà. Et aujourd'hui, bien qu'il soit grand et qu'il ait 3 ans, je prends encore la poussette parce que je ne sais pas courir. Donc si jamais il s'échappe, je peux pas le rattraper. Donc dans la rue. Donc il faut que j'ai la poussette quand je me balade avec lui, c'est une mesure de sécurité parce qu'en fait la zone pour activer certaines actions est cassée dans ma tête. C'est-à-dire que là où toi instinctivement tu sais que tu dois courir, ben ça va se déclencher de suite. Et moi il y a un temps de réflexion pour savoir comment je vais faire pour actionner le mouvement de la course. Ça peut être long. Donc du coup, ben je suis obligée de faire attention à certains trucs comme ça parce que cette zone-là dans mon cerveau est cassée et je suis encore en train de la rééduquer. Donc c'est compliqué. Mais le lien avec mon fils a jamais été rompu. Il y a que quand j'étais hospitalisée et que je voyais que les week-ends, c'était dur pour moi la semaine de pas le voir. Ouais. Et donc les médecins, au bout d'un moment, ont dit à mon copain de venir le mercredi après-midi avec lui pour faire le goûter ensemble. Et donc, dans le centre de rééducation, il y avait une salle commune de café. Et donc, tous les mercredis matins, je réservais au café 2 croissants pour lui. Donc, il avait sa serviette à son nom sur le comptoir avec les croissants. Tout le monde savait que c'était à lui, il fallait pas y toucher. Et du coup, il venait faire le goûter avec moi dans la salle de café. Et il était un peu la mascotte parce que il y a des gens comme moi qui ont un AVC à 30 ans et ça n'existe pas, quoi. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Donc, de voir ce petit bébé qui marchait entre les tables. En plus, il allait narguer tous les gens avec son croissant. Et voilà, c'était, il a vécu un peu avec moi à l'hôpital malgré tout. Et il connaît très bien ce que je fais. Je suis toujours actuellement en rééducation. Et quand je lui dis non, ce matin, c'est moi qui t'amène à l'école parce qu'après, je dois aller à l'hôpital. Et il me dit, tu vas voir docteur Bertrand? Oui, aujourd'hui, c'est docteur Bertrand. Et après, tu vas voir Isabelle? Oui, aujourd'hui, j'ai orthophoniste, je vais voir Isabelle. Voilà. Et il est tout t'as fait au point sur mon planning et comprendre tout à fait ce que je fais, quoi.
Est-ce que ça a été dur pour toi de justement mettre un peu ta maternité entre parenthèses pendant tout ce temps-là?
Oui, c'est hyper dur de pas voir son enfant grandir. Dans ma tête, j'ai du mal à... Alors déjà, j'ai un problème de temps. C'est-à-dire que dans ma tête, je suis bloquée en 2017-2018. C'est-à-dire que si je dois faire un chèque, tu peux être sûr que je vais me tromper sur la date de l'année. Je suis toujours obligée de demander. Et quand on me demande des fois des informations, je suis obligée de dire on est en quelle année? Alors les gens me trouvent bizarre, mais c'est que je sais pas en quelle année on est. Et donc le pas l'avoir vu pendant 5 mois, ça a amputé aussi ce truc autour du temps. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu 5 mois cruciaux dans sa vie. Et ça, je le vois avec mon neveu parce que il est pile dans l'âge où avait mon fils à ce moment-là. Et quand je vois ce qui est en train de se passer chez lui là, je me dis, mais j'ai quand même perdu 5 mois de la vie de mon fils. Et ça, c'est quand même un peu dur. Et du coup, dans ma tête, il est encore tout petit, alors qu'en réalité, il a 3 ans. Mais voilà, le fait d'avoir mis entre parenthèses comme ça, c'est ce temps-là, j'ai l'impression d'avoir perdu un peu 5 mois de maternité. Après, on va pas se mentir, quand tu as l'hôpital, les premiers temps, c'était dur quand je rentrais les dimanches, mais après, je n'y voyais finalement que des avantages. Tu fais pas la lessive, tu fais pas à manger, t'es logé blanchi, t'es coucouné. Moi, j'étais archi coucouné, quoi. Les infirmières, les aides-soignants, tout le monde avec moi était hyper cool. Et voilà. Et du coup, c'est vrai que ça compenser le fait que je vois pas mon fils parce que j'allais pas en rééducation en reculons, quoi. Et je savais qu'on pouvait venir me voir. Tout le monde a toujours été hyper ouvert sur mon histoire. J'ai eu des petites interrogations, par exemple au niveau de sa psychomotricité, et c'est ma psychomote à l'hôpital qui m'a guidée, voilà. Donc ils étaient au fait de mon histoire et ils étaient très impliqués, autant dans ma relation à l'AVC, mais aussi ma relation à ma famille et à mon fils. Et du coup c'est vrai que j'ai mis ma maternité entre parenthèses, mais en fait c'est la sensation d'avoir aussi beaucoup avancé pour devenir meilleur après. Voilà. Tout était conçu autour de toute façon, il faudra que je reprenne ma vie de maman, donc tu te rééduques que pour ça, quoi. Et je donne tout pour lui, quoi. C'est vraiment pour lui que je donne tout, quoi.
Et alors, pendant ta rééducation, t'as commencé aussi à faire des dessins, des illustrations sur justement un petit peu tout ce qui t'arrivait.
Alors en fait, à la grande époque des blogs dans les années 2000, je lisais beaucoup de blogs et j'en faisais un. Ne le cherchez pas, il a disparu dans les lames d'Internet. Et puis je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose pour mon fils. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, je ne sais pas écrire. Je sais le faire, mais le temps que je trace les lettres en attaché, j'ai déjà perdu le fil de mon idée. Donc je ne sais écrire qu'en lettres capitales et à l'ordinateur. Et donc, je me suis dit, il faut que je raconte ça à mon fils, mais je pourrais pas l'écrire. Alors, j'ai commencé à le dessiner. Et puis, je me suis dit, je vais le faire sur Instagram. Je vais faire une BD qui raconte mon histoire et je vais poster sur le format carré mon histoire. Donc, j'ai commencé à l'hôpital avec un bloc-notes, un crayon à papier, une gomme, un feutre noir. Et j'ai commencé comme ça, en prenant les photos directement du bloc-notes et en les nettoyant sous les filtres Instagram, et à poster comme ça mes images. L'idée, c'était, je veux garder une trace pour mon fils, pour que plus tard, il comprenne pourquoi maman est partie pendant 5 mois. Et puis, au-delà, parce que non, ça fait 2 ans et je continue toujours ma rééducation, donc voilà, donc je voulais lui raconter et voilà, donc j'ai commencé à faire ça. Et puis le compte a commencé à grossir grâce au partage de certaines de mes amies qui ont beaucoup d'influence sur Internet. Et progressivement, j'ai commencé à avoir de plus en plus de contacts de gens qui ont vécu des AVC et qui se sont trouvés sans solution, qui étaient isolés, qui avaient besoin de parler. Finalement, il y a une communauté AVC qui s'est créée autour de mon compte Instagram. Et du coup, voilà, tous les jours, je réponds à, je sais pas, 50 de messages de personnes qui m'écrivent pour me raconter leurs histoires, leurs problèmes, avoir besoin de conseils, échanger, discuter. Et voilà, ils ont besoin d'avoir du contact parce qu'en fait, l'AVC, c'est une maladie qui isole quand on est comme moi à se retrouver aphasique. En fait, ça, je n'ai pas expliqué, mais je suis aphasique. C'est-à-dire que j'ai un trouble du langage. Et en plus, à côté de ça, j'ai une apraxie de la parole. Quand on me voit en vrai, j'ai un côté de ma bouche qui est beaucoup moins mobile parce que je ne sais pas déclencher les muscles pour parler correctement. Donc, c'est pour ça que des fois, je bégaye et que j'ai des troubles articulatoires. Et donc, l'aphasie, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent complètement muets, qui peuvent plus communiquer avec l'extérieur. Donc, c'est une maladie qui isole. Moi, par chance, j'ai toujours parlé. J'ai toujours réussi à parler. Au début, c'était excessivement lent, c'est-à-dire que je mettais une seconde entre chaque mot. Et progressivement, je réappris à gagner en vitesse et en fluence. Par contre, j'ai encore des fois de manque de mots où je me trompe de mots parce qu'il est approchant. Et voilà. Et moi, mon aphasie fait que j'ai une capacité de lecture très réduite et que j'ai beaucoup de mal à écrire et à comprendre certaines choses. Et voilà, donc quand on est aphasique et qu'on a fait un AVC, qu'on est tout seul et qu'on est isolé et qu'on ne sait pas quoi faire et qu'on a 30 ans et qu'on est jeune, mais finalement, il y a plein de gens qui m'ont écrit en se sentant concernés par l'histoire et en se disant, j'ai besoin d'échanger autour de ça. Et donc voilà, donc par contre, moi, je réponds toujours aux messages en disant, je ne suis pas médecin. Je peux juste partager mon expérience parce que moi, je vous rappelle que je suis professeur d'art plastique. Donc, la médecine, les arts plastiques, c'est très, très, très loin, c'est très éloigné. Même si aujourd'hui, j'ai beaucoup lu de littérature scientifique autour de l'AVC, je suis pas médecin. Je peux pas aider les gens sur certains points. Et voilà. Et après, c'est vrai que mon expérience les touche dans le sens où faire un AVC à mon âge, c'est pas banal. Et surtout, moi, ce que je voudrais démonter, c'est les clichés sur si t'as fait un AVC à 30 ans, c'est soit que t'as pris la pilule et tu fumais, soit t'étais toxico, soit t'étais alcoolique, soit t'étais en surpoids et tu bougeais pas. Voilà. Et c'est pas vrai. Moi, je coche aucune de ces cases. Moi, j'ai une malformation cardiaque. Et je le savais pas. Donc j'ai appris que j'avais une malformation cardiaque le jour de quand on a fait les tests après mon AVC. Et voilà. Et en fait, je n'avais aucune raison de faire un AVC. J'étais sur le tableau clinique, aucune raison. Mais en fait, j'avais une malformation cardiaque inconnue. Et on est plusieurs cas comme ça. Enfin, la majorité des cas, c'est des gens qui avaient une pathologie qu'ils ne connaissaient pas. Par exemple, j'ai une copine à l'hôpital qui a fait un AVC 4 jours après son accouchement parce qu'elle a fait rupture d'une artère à l'arrière de la tête. Et voilà. Et elle avait aucune raison concrète de faire un AVC. Elle cochait aucune des cases clichés. Ben, voilà. Donc c'est difficile pour les gens de comprendre qu'on peut avoir 30 ans et faire un AVC. On croit toujours que c'est le vieux monsieur qui a fumé des cigares et bu du Beaujolais toute sa vie, qui est sédentaire et qui regarde le Big Deal. Non, c'est pas ça quoi. C'est on peut avoir un AVC sans cocher ces cases là quoi. Voilà. D'ailleurs. Moi, j'ai eu de la chance parce que cette fameuse péridurale trop dosée.
C'est ce dont j'allais te parler, oui. Est-ce qu'il n'y a pas un lien aussi
Eh bien, elle m'a sauvé la vie. Parce qu'en fait, si j'avais poussé très très fort sur un effort de poussée, j'aurais pu faire mon AVC sur la table. Donc moi, j'ai dit merci à cet anesthésiste qui m'a sauvé la vie sans le savoir. Des fois, il faut savoir voir le verre à moitié qui est plein. Et finalement, 4 jours de paralysie, c'était rien à côté de ce qui aurait pu m'attendre si la péri avait bien été posée. Donc voilà, dans mon malheur, j'ai eu quand même vachement de chance. Et ça, quand on s'en rend compte de ce genre de détails, on se dit, la vie est bien faite, par moment.
T'as un autre regard sur la vie depuis que ça t'est arrivé ?
Déjà, j'avais un nouveau regard sur la vie quand j'ai eu mon bébé, parce que je me suis rendu compte que c'était très dur d'être maman. Parce que je l'avoue sans honte aucune, moi j'étais totalement à vouloir être genre la mère parfaite, donc le repas bio local cuisiné maison pour moi, pour mon copain, pour mon bébé, la maison nickel, bien décorée, le linge toujours prêt, propre, passé, voilà, et être présentable, donc toujours être la mère parfaite. Et en fait, je me suis épuisée à faire ça, parce qu'il faut le reconnaître, les premiers mois de vie du bébé, on peut ne pas se laver pendant 3 jours, je pense que on a le droit de le faire. Faut arrêter de se coller des étiquettes débiles dessus. Et voilà, donc je me suis beaucoup fatiguée et là je me suis dit que non, c'était pas possible. Au bout d'un certain moment, j'ai voulu lâcher prise et avoir une vie normale. Et après l'AVC, tu te rends compte de tout ce qui est superficiel quand tu rentres dans le monde du handicap. C'est-à-dire que avant d'avoir mon fils, j'ai fait une dépression pendant 6 ans, j'ai eu des médicaments. Et aujourd'hui, je me dis, franchement, est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire une dépression pendant 6 ans? Parce que c'était une dépression qui était liée à un burn-out professionnel. C'est-à-dire que je vivais toute seule dans un studio de 25 mètres carrés, loin de ma famille qui était à 600 bornes, loin de mon copain. Et du coup, je n'avais qu'une seule obsession, c'était être parfaite pour mes élèves. Donc je ne faisais que bosser, que bosser, que bosser, que bosser. Et je ne vivais que pour le collège. Et en fait, je me suis collé une pression monstre pendant des années. Et voilà. Et du coup, aujourd'hui, je me dis, mais est-ce que c'était nécessaire, quoi? Alors certes, je les ai bien fait bosser. Ça, ils sont vachement au point en histoire de l'art. Il n'y a pas de souci. Même ceux qui en ont rien à foutre aujourd'hui, ils sont au point. Mais en fait, c'était pas nécessaire. Et aujourd'hui, il y a plein de trucs quand on me les raconte. Mais je trouve ça chiant. Les petits problèmes matériels des uns et des autres, quand on se connaît après tout ce qui peut se passer, c'est franchement, on se dit, tu te poses vraiment des soucis pour rien, mec. Et voilà, et ça aide quand même à voir le monde de manière plus positive, parce que ça fait grandir, quoi, intellectuellement. Moi, j'ai côtoyé pendant 11 mois beaucoup de patients, beaucoup de soignants. Alors moi, j'étais en neurologie. Donc il y avait beaucoup de personnes âgées, et en fait quand tu vois une personne âgée se battre pour retrouver sa vie d'avant, ben c'est juste fou, quoi. Ils lâchent rien. Et ça, moi, ça, je me suis dit, c'est une vraie leçon de vie, de tout donner comme ça. Et puis on rencontre des gens que la vie ne nous aurait pas offert de rencontrer. Il y a un monsieur que j'ai rencontré, c'est un chasseur qui collectionne les armes à feu, il a plein d'autres trucs, coche plein d'autres cases où, dans une vie parallèle, on n'aurait pas pu se rencontrer. Mais n'empêche que moi, je l'adorais, ce monsieur. Et dans ma vie d'avant, jamais j'aurais eu l'occasion de le rencontrer. Mais non, mais en fait, je l'adore. Je l'ai pas vu depuis un an, mais je continue à lui envoyer des textos pour prendre de ses nouvelles. Pareil, il y avait un ancien gendarme qui avait eu la même maladie que l'autre monsieur. Pareil, dans une autre vie, mais j'aurais sympathisé avec un gendarme de 70 ans. Eh ben si, voilà. Et voilà, c'est ça qui est marrant, c'est que ça te fait changer la vision des choses sur la vie, sur le handicap, sur le dépassement physique, sur la résilience, parce que la résilience, c'est hyper important, je trouve. Moi, tout le monde me dit que je suis hyper résiliente. Non, enfin, je me suis juste battue parce que j'ai un fils, quoi, et que je vis pour lui. Mais dans la vie, j'ai deux papes de la résilience. Pour moi, c'est mon frère, Jean, qui est pour moi top de la résilience. À côté, moi, c'est du pipi de papillon, ce que j'ai fait. Et mon médecin et copain qui s'occupe de moi, Geoffroy, qui est aussi un problème de santé, qui est aussi mon pape de la résilience. Donc Geoffroy, si tu écoutes ce podcast un jour, tu es mon pape de la résilience. Tu veux pas que je te le dise, mais pour moi, tu es au top. Et voilà. Et c'est vrai qu'on rencontre des gens qui sont fous, quoi, qui arrivent à se dépasser, qui te donnent tout, et à côté, tu vois, quand tu vois les petits problèmes des autres qui te disent, oh là là, on a perdu ma commande Asos, je suis dégoûtée, j'ai perdu 50 euros. Ah ouais? Mais dis donc, qu'est-ce qu'ils sont, quel problème énorme! Voilà. Ça me laisse de marbre, quoi. J'ai du mal à compatir à des trucs un peu nazes comme ça, quoi. Et par contre, là où je trouve que c'est bien, c'est que ça m'a permis de reconsidérer toute ma vie. C'est-à-dire qu'avant, je pouvais être déprimée très facilement, abattue. Je serais restée dans mes certitudes sur certaines choses. Et en fait, ça m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de choses. Et je sais pas si c'est le cas ou pas, mais j'ai l'impression que cet AVC a grillé ma zone de la dépression, comme ça avait disparu. Donc, je fais pas partie des post-AVC dépressifs. Et voilà. Et je trouve que l'air de rien, ça a été une grande chance, parce que même tout ce que j'ai réappris à faire pour vivre normalement, je l'ai appris en même temps que mon fils. Et ça, c'est quand même ouf. Tu te dis, à 33 ans, tu réapprends à utiliser une cuillère, et ton fils de 15 mois, il est en train de faire la même chose. Eh ben, on se rend pas compte combien c'est difficile d'utiliser une cuillère, tout ce que ça engage dans le cerveau. Et moi, je l'ai vécu en tant que mon fils, et je trouve ça incroyable d'avoir eu cette chance de revivre une deuxième fois tous ces apprentissages et de le comprendre. Parce que même quand mon copain disait « Allez, fais un effort quand même, tiens la cuillère », moi je disais « Mais non, mais c'est hyper dur, tu te rends pas compte, il faut arriver à mobiliser tous les doigts de la main ». Et voilà, c'est quelque chose de très très compliqué, mais en fait j'ai l'impression de m'être vachement rattachée à mon fils, de m'être vachement rapprochée sur certains points, parce qu'il apprend des choses, il a appris des choses au moment où moi je les réapprenais, et on m'avait d'ailleurs dit, tu vois, ton fils s'il marche pas, il a quasiment 19 mois, il se mettra à marcher le jour où tu sors du fauteuil roulant. Ah, ça a pas loupé. Le jour où je suis sortie du fauteuil roulant, il marchait. C'est voilà. Et du coup, c'est vrai que là-dessus, on est hyper liés. Alors, j'ai jamais eu besoin de couche, donc on n'a pas pu faire ensemble l'acquisition de la propreté. Dommage. Mais je rigole. Mais il y en a qui en ont besoin et c'est pas drôle en vrai. Mais voilà, ça nous a vachement rapprochés sur certains points. Et même là, je vois l'école maternelle, il apprend des trucs où je me dis, mais waouh, il est en train d'apprendre un truc de malade, quoi. C'est hyper dur ce qu'il est en train de faire. Et moi, des fois, il y a des activités qu'il fait, je crois que je serais pas capable de les faire par rapport à ce que ça engage cognitivement. Et je trouve ça incroyable, quoi. C'est une immense chance, finalement, d'avoir eu la possibilité de découvrir ce monde-là. Alors, je dis pas que c'est une chance d'avoir fait un AVC, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très lourdement handicapés, où ça interfère sur toute leur vie, où c'est terrible. Mais moi, alors, on me dit de pas dire ça, mais mon compte Instagram, c'est mon petit AVC, parce que ma kiné disait tout le temps quand elle me présentait, je te présente Margot, elle a fait un petit AVC, et moi ça m'énervait, et je lui disais, arrête, tu dis il est petit, mais t'as vu comment il a pourri ma vie, et en fait elle avait raison, objectivement il est pas bien grand mon AVC, il fait la taille d'un rouleau de scotch dans ma tête, voilà, il est pas énorme. Quand je vois les IRM d'autres patients où ils ont la moitié du cerveau abîmé, moi il est tout petit, mais il a changé ma vie positivement. Voilà.
Et tu parlais justement tout à l'heure de la maman parfaite. Comment tu le vis, toi, du coup, d'être une maman handicapée dans ce monde, justement, qui veut qu'on soit toute parfaite ?
Alors, je suis certes une maman handicapée, mais ça se voit pas sur moi. Donc, moi, je souffre de handicap invisible. Donc, moi, vous me croisez dans la rue, vous pouvez pas imaginer que je suis handicapée. En plus, je fais hyper attention à mes fringues, à comment je suis habillée, je suis toujours soignée, présentable. Bon, à part les jours où j'ai kiné, où je suis en jogging, et là, c'est un peu la honte, mais normalement, je suis toujours nickel. Et voilà, et de l'extérieur, on pourrait croire que je suis vraiment parfaite. En réalité, pas du tout. Ma maison est constamment en bazar. J'ai une petite obsession pour le linge propre, mais voilà, c'est la seule que j'ai. Et voilà, et j'ai décidé que je ne serai plus une maman parfaite sur ce point-là, quoi. Voilà, je serai moi-même et je ferai au mieux pour que mon copain, mon fils et moi, on soit bien tous les trois ensemble. Et après, ce que les autres pensent, je m'en fous. D'ailleurs, mon fils est à l'école et on a un groupe WhatsApp des parents de la classe. Et on avait dit qu'on se présentait, qu'on expliquait ce qu'on faisait dans la vie, je sais pas. Et du coup, moi, je me suis dit, tant pis, je le mets cache. J'ai mis je suis Margot, la maman d'eux. J'ai 35 ans. Je suis pauvre d'aplastique, mais je ne travaille pas. Et je suis aphasique, je parle pas bien. J'ai fait un AVC il y a 2 ans. Vous pouvez me parler, je comprends tout. Mais des fois, je peux vous répondre à côté de la plaque. Il faut pas vous inquiéter. Et en fait, j'ai décidé de crever l'abcès d'un coup. Parce qu'en fait, j'ai pas envie que les gens disent, mais elle est bègue, qu'est-ce qu'elle a? Et voilà. Parce que au tout début, quand je parlais, j'avais encore plus de troubles d'élocution. Un jour, part que mon fils descend du toboggan et puis voulait que j'applaudisse et je lui parle et je parlais pas bien et la dame qui était assise à côté de moi sur le banc, elle m'a regardé de la tête aux pieds, a pris ses affaires, s'est levée, allée sur un autre banc. Et là, je me suis dit OK, il y a un gros travail à faire dessus sur l'altérité et la différence et voilà et du coup maintenant je préfère crever l'abcès et le dire de suite que je suis handicapé et voilà quoi et qu'on doit m'accepter tel quel et j'assume de pas être la mère parfaite et de pas ressembler à maman lambda. Mais certes, je travaille pas, certes ma vie est construite autour de la rééducation, mais j'ai une vie quand même à côté quoi. Donc voilà, j'assume totalement ce que je suis. Je vais pas me priver de parler avec des gens parce que j'ai des troubles de l'élocution. S'ils comprennent pas ce que je dis, ben ils ont le droit de me faire répéter et puis point barre quoi. J'assume à 100% quoi.
Et alors qu'est-ce que ça a changé chez toi la maternité?
La maternité, bon alors moi j'ai une famille où on est quatre enfants, on a toujours été très liés à nos parents, mes parents habitent dans la même ville que moi, voilà donc il y a un noyau familial très très construit et donc moi j'avais envie de reproduire ça avec mon fils quoi, d'avoir une belle famille, en plus mon copain il vient d'une famille où sont trois enfants aussi, donc c'est important pour lui aussi d'avoir un bébé. Et pour moi la maternité je trouve ça formidable, ça a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie, je me sens plus complète en fait, j'ai du mal à imaginer ma vie quand je l'avais pas, enfin alors si j'avais du repos, mais je peux pas concevoir qu'il puisse pas faire partie de ma vie quoi. Il est tout. Je suis capable de me lever la nuit juste pour aller le voir dormir parce que ma vie sans lui, elle a pas de sens quoi. C'est mon fils. Je vis que pour lui. Je fais beaucoup de choses pour lui parce que on est soudés autour de lui. Il est toute notre vie quoi. Ça a tout changé. Et je parle vraiment aussi de mon copain parce que pour lui aussi c'est la même chose quoi. Il dit souvent que les papas ont pas la parole, mais lui aussi ça a changé toute sa vie quoi. C'est son fils, c'est sa merveille, c'est il y en a que pour lui quoi. D'ailleurs il est en plein Oedipe, alors en ce moment il y en a que pour moi, et c'est dur pour son père, mais voilà c'est notre petit amour quoi. Il est tout, c'est la personne la plus précieuse au monde. Et d'ailleurs, je suis bien contente d'avoir fait mon AVC après sa naissance, parce que si je l'avais fait avant qu'il naisse, peut-être que j'aurais pas pu avoir de bébé. Donc finalement, heureusement que je l'ai eu et qu'il était déjà là. Et voilà.
Tu pourras faire d'autres enfants du coup ou pas ?
Aucune idée. Ça m'est pas forcément conseillé par mon gynécologue et par mes médecins, parce que en termes de fatigue. Parce que là, je suis ultra fatiguée. Et du coup, on ne sait pas si mon corps pourrait supporter une autre dose de fatigue. Et puis en plus, peut-être que ce serait par césarienne. Et voilà. Et en fait, le temps que mon corps se repose et que je puisse potentiellement être au moment de faire enceinte, ben, je serais trop vieille. Et voilà. Donc, je ne sais pas si j'aurai un autre enfant. Donc, comme on dit avec mon copain, on se dit, écoute, si on n'en a qu'un seul, il est déjà merveilleux. Donc, est-ce qu'on a besoin d'une autre merveille? On en a déjà un. La vie nous en a déjà donné un. Donc, contentons-nous de ce qu'on a. Et voilà. Et du coup, on a déjà fait notre deuil, quoi. Moi, j'aimerais bien faire une autre grossesse, mais juste pour le sentir, en fait. Parce que, peut-être pour le côté de me dire, ça fait quoi d'être enceinte et de voir une vraie vie? Mais sinon, avoir un autre enfant, je ne m'en sens pas capable physiquement. C'est dur.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Mm-hmm. C'est quoi pour toi être une maman bordelaise ?
Bah, quand tu lis les livres sur la maman parisienne, la maman bordelaise, elle est comme tout le monde hein, en fait. Elle est là en ce moment. Moi, je vois devant l'école, elles ont toutes le pantalon un peu large, retroussé, avec les petites tennis qu'il faut, les chaussettes un peu pliées, l'impair. Le bonnet, en fait je suis pareil hein, en réalité, mais maman bordelaise, je crois qu'on est hyper cliché en fait, on est comme les Parisiens, mais je crois qu'on nous repère à 500 mètres les vrais bordelais.
Quel est ton endroit kids friendly préféré à Bordeaux?
Mais écoute, comme je sors pas beaucoup avec mon fils, lui, il aurait tendance à te dire que quand il y allait avec sa nounou, c'était Youpi Park. Donc un petit parc d'attractions pour les enfants. Moi, je suis jamais allée, donc c'est, je pense que ma nounou dirait que le meilleur de Bordeaux ce serait ça. Mais bon, c'est pas très, ça fait pas trop Instamum et blogueuse, hein, parce que c'est voilà, c'est quand même la patte patrouille et compagnie et Pikachu, donc c'est pas très classe. Kid friendly, sinon à Bordeaux, moi j'adore aller aller chercher mes livres au rayon enfant de la librairie Mola parce qu'ils ont tout. Voilà. Pour mon fils, on y va. Il prend un livre et il le met dans la poussette et j'ai pas le droit de dire non. Voilà. Parce que c'est formidable. Comme endroit.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille?
Alors, mes projets rien que pour moi, j'aimerais bien trouver une solution pour reprendre mon travail. Et voilà, ce qui est très difficile quand on est dans la fonction publique et dans l'éducation nationale. Et mes projets pour ma famille, eh bien, qu'on puisse avoir une vie un peu plus normale qu'actuellement, où on est quand même vachement centré autour de mon emploi du temps. Mais après on est content de notre vie. Moi j'aimerais faire plus de choses avec mon fils, mais dans le sens où j'aimerais pouvoir l'inscrire à plein de trucs, mais souvent il est trop petit, donc j'ai hâte qu'il puisse avoir l'âge de faire certaines activités qu'on peut faire en famille. Par exemple, on rêverait tous les trois d'aller s'inscrire et faire des cours de skate tous ensemble. Pour qu'on partage ce truc de faire du skate ensemble. Et voilà, ça on aimerait bien l'année prochaine ou dans 2 ans quand il aura l'âge, le faire tous ensemble.
Merci beaucoup Margot.
Merci Shane.
Un grand merci d'avoir écouté Le Tourbillon, et si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant un avis et 5 étoiles sur votre application podcast. Cela m'aidera beaucoup. Pour échanger sur le sujet abordé avec Margot, laissez vos commentaires sous la photo de l'épisode 76 sur le compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.